Gloire à Dieu, bonjour à tous, vous allez bien? Dis donc, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça à l'Assemblée, on ne les a pas vus hier soir, hein? Ah, oh, mais je suis certain que vous aviez une bonne raison de ne pas être là, mais l'important c'est que vous soyez là ce matin. Ajustez pas vos appareils, ce n'est pas un accent neuchâtelois. Mais je voulais vous remercier pour l'hospitalité, vous êtes vraiment des gens qui savent accueillir, vous avez même commandé la neige pour que je me sente chez moi. Hein, je viens du Québec et je ne suis pas dépaysé du tout à voir cette neige-là. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mon épouse Corinne et je reviendrai par la suite avec le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Amen.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ceux que je n'ai pas salués, ça me fait vraiment plaisir. Il y en a quelques-uns que je connais plus particulièrement. Ça me touche de les voir ici ce matin. Vraiment. Alors, je vais présenter qui sommes-nous. Il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas, mais c'est qui Corinne et Michel Allard ou Michel et Corinne Allard? D'où sortent-ils? Alors, au-delà des origines québécoises, moi je suis alsacienne, mais j'ai vécu longtemps en Suisse, mais ce qui est important, c'est qu'on est des prédicateurs itinérants de l'Évangile. On n'a pas d'église à nous, on n'a pas de ministère installé quelque part. On est vraiment, on se déplace avec notre voiture et on va de lieu en lieu faire du bien à ceux qui nous appellent, à ceux qui ont besoin d'être restaurés, d'être déliés, d'être déchargés. On amène vraiment le message de l'Évangile qui est celui qui est dit « Délivrez les captifs, libérez, faites tomber les chaînes des prisonniers, que vos cœurs soient restaurés ». Et en fait, la deuxième partie de notre ministère, le ministère s'appelle « Plus que vainqueur », mais aussi « Le bon Samaritain ». Et de mon côté, avant de connaître Michel, j'avais une maison d'accueil aux Antilles qui était comme un bon Samaritain où les personnes venaient pour se faire du bien. Et Michel avait un ministère en France qui s'appelait le bon Samaritain où les personnes venaient pour être restaurées et se faire du bien. Le Seigneur a permis qu'on se rencontre. Il a mis deux personnes qui avaient ce même cœur pour les autres. On aime premièrement la personne humaine et on veut sa restauration pour que l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix soit vraiment efficace et utile dans chacune des vies. Sinon, il est mort en vain et sa grâce ne nous sert à rien. Donc on vient pour aider, pour relever, pour restaurer, pour parcourir un chemin de vie et sortir des chemins de mort. Donc voilà, ça c'est notre ministère. Mais on l'exerce dans beaucoup de pays, dans la francophonie, au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, là où on est appelé. Si vous voulez nous suivre sur nos déplacements ou profiter de nous inviter, il y a le site internet www.plusquevainqueur.com. Là, vous pouvez voir toutes nos activités, vous inscrire en ligne, faire des dons en ligne si vous avez à cœur de soutenir un ministère qui vous a béni. Et il y a aussi Facebook ou Facebook, comme dit Michel. Michel est très, très présent sur les réseaux sociaux et il aime beaucoup vous répondre. Vous avez des questions, vous avez envie de lui parler, il y est régulièrement et il se fait vraiment un plaisir. Alors, ne le loupez pas sur Facebook. Nous avons une table de livres derrière. Pourquoi ? Parce que selon 1 Corinthiens 9, verset 14, où il est écrit, l'apôtre Paul dit « J'ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ de vivre de l'évangile ». Comment pouvons-nous vivre de l'évangile si on n'a pas à apporter avec nous du matériel que vous pouvez acheter et en l'achetant, ben, vous nous faites vivre. Ça nous permet de mettre de l'essence dans notre voiture, de nous déplacer et d'aller justement aller de lieu en lieu. On n'a pas fait de tente comme l'apôtre Paul, mais on écrit. Michel a écrit 3 livres. 2 livres, j'en ai écrit 1. Ensemble, on a créé le manuel des plus que vainqueurs pour rester dans la victoire que Jésus nous a offerte. C'est un livre de chevet que vous pouvez parcourir avec des prières, avec des proclamations, avec des contrats de transfert de soucis, si ça vous intéresse. Allez voir, je ne vous en dirai pas plus, c'est très intéressant. Il y a aussi des CD sur les liens ancestraux, les liens d'âme, les liens familiaux, tout ce qui nous retient, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer dans une vie victorieuse. Il y a des liens à briser. Vous pouvez commencer le travail vous-même, chez vous, avec la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Voilà, dedans, il y a des prières. Comment arriver à détacher vous-même vos liens? On peut le faire, on n'a pas toujours besoin d'aller vers quelqu'un parce que le Seigneur nous rend réellement puissants avec son Saint-Esprit et on est capable de se délier soi-même des liens d'âme, de relations qu'on a eues dans le passé. C'est un coffret très intéressant. Et l'autre, ça c'est des DVD. On a aussi des DVD où vous nous voyez la tronche, comme dit Michel, pendant qu'on prêche. Et voilà, il y en a plein. C'est des petits enseignements de 28-30 minutes. Là, par exemple, c'est les armes spirituelles du chrétien. comment sortir dans ce monde alors qu'on est dans une guerre spirituelle et arriver tout nu devant l'ennemi. Lui, il vous voit. Il voit si vous avez revêtu ce matin votre armure ou si à la moindre petite blessure ou la moindre petite offense, vous allez tomber dans son piège. Alors, il y a voilà, plein d'enseignements et plein de matériel derrière la table de livres et sachez que ça nous aide, ça nous fait vivre. Voilà, soyez bénis. Je passe la parole à mon mari. Je voulais lire le verset d'Ésaïe où il a dit... Ésaïe 58, mais je l'ai pas, j'ai pas fait assez vite. Où il dit, mais libérer, tu sais, les chaînes, j'ordonne de libérer les chaînes, de faire enlever les jougs des personnes. C'est ça notre appel à tous les deux.
Amen.
Voilà.
Gloire à Dieu. Je suis content de l'entendre. Merci beaucoup, Corinne. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais déjà ouvrir la parole avec vous ce matin. Soyez pas étonnés si j'ai une tablette devant moi. Je suis pas le premier qui l'utilise. D'ailleurs, ça a commencé avec Moïse. Et la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, ça serait comme dans les premiers temps. Donc, nous voici de retour avec des tablettes maintenant. Amen. Et dans le psaume 34, au verset 9, il est écrit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et dans 1 Pierre 2, 3, il est écrit « Toutefois, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, dites-le. » Voulez-vous, on va prier ensemble. Alléluia, Éternel notre Dieu, quelle joie, quel privilège d'être réunis ensemble en ton nom. Et ta présence, elle est là. Elle se manifeste par des façons invisibles, mais nous savons que tu es là, car ta parole nous dit que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Et lorsque tu es là, Seigneur, eh bien, il se passe des choses. Tu es un Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté ni exécuté tes desseins. Alors, Éternel, ma prière ce matin est que nous puissions, à travers ce temps autour de ta parole, de pouvoir goûter combien l'Éternel est bon. Mais non seulement goûter combien tu es bon, mais surtout avoir à cœur de le partager. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent goûter combien l'Éternel est bon, disent « Amen ». Alléluia. Qui a déjà goûté combien l'Éternel est bon? Alléluia. La majorité d'entre vous, gloire à Dieu. Qui parmi vous a déjà été mangé à un resto et c'était tellement bon rapport qualité-prix que par la suite, vous avez dit à des gens de votre entourage, « Hey, tu devrais aller manger à tel restaurant, c'est super. » Qui a déjà fait ça? Amen. Qui a été payé par le restaurant pour le faire? Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez fait? Parce que c'était bon et vous avez dit, waouh, c'est super. Et quand on goûte à quelque chose de bon, on a envie de le partager autour de nous, n'est-ce pas? Qui a déjà écouté un film, soit au cinéma ou peu importe sur Internet ou à la télé, puis il a dit, ah, il faut absolument que tu ailles voir ce film-là, c'était super et vous l'avez dit à votre entourage. Combien il y en a pour le cinéaste vous envoyer un chèque? Pour vous remercier d'avoir fait sa pub? Personne. Et pourtant, on le fait parce que c'est dans notre nature de quand on goûte quelque chose de bon, quand on découvre des choses qui sont bonnes, qui nous ont fait du bien, eh bien, de le partager autour de nous. Qui a goûté combien l'Éternel est bon? Alléluia. Qui a à cœur de dire aux gens autour dans notre entourage, de dire, « Wow, tu devrais goûter à l'Éternel, parce que tu vas voir comment il est bon. » Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous poser une question ce matin pour voir un peu le niveau de connaissance que vous avez dans la parole de Dieu. Qui, selon vous, a été le premier évangéliste? Premier évangéliste. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et l'évangile, c'est la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. Qui, selon... Allez, risquez un nom. Qui a été le premier évangéliste? Une femme? La Samaritaine? Ouais. Marie-Madeleine? Ouais. Biz, mauvaise réponse. Jean 1, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean le Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus et Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le premier évangéliste, c'est André. André a entendu les paroles de Jean le Baptiste et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il a rencontré le Christ. Et après avoir rencontré le Christ, il est allé vers son frère Simon et il a emmené Simon à Jésus. Et quand on amène quelqu'un à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, en voyant Simon, dit maintenant, « Fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Il a changé son nom. Et qui dit changer de nom, dit changer d'identité, dit changer de perspective par rapport à l'avenir, peu importe ce qui a été ton passé. À l'été 1980, j'ai rencontré un homme d'affaires. J'étais moi-même un homme d'affaires. Et j'ai rencontré un homme d'affaires qui était différent des autres hommes d'affaires avec qui j'avais l'habitude de négocier. De lui émanait une paix que moi, je n'avais pas. Et ça m'intriguait parce que tout au long des négociations, parce que je voulais obtenir l'exclusivité de son produit pour la province de Québec, cet homme semblait avoir mes intérêts à cœur. Il semblait d'une rigoureuse honnêteté et il voulait que si on parvenait à signer un contrat ensemble, que ça soit aussi bon pour moi que pour lui. Ce qu'on appelle aujourd'hui « win-win », gagnant-gagnant. Mais déjà en 1980, cet homme avait cette attitude de cœur. Et ça m'a interpellé. J'étais interpellé par l'attitude qu'il avait, par la paix qui, dans laquelle il était, et surtout qui avait mes intérêts à cœur. Et après 2 jours de négociation, finalement, on a signé le contrat qui faisait de moi son distributeur exclusif pour le Québec. Et il est venu me reconduire à l'aéroport. Et là, avant de me quitter, il m'a serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Michel, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Alors, je l'ai remercié poliment. Je n'étais pas vraiment habitué à ce qu'un homme d'affaires me parle de cette façon. Parler de Jésus-Christ, c'est le travail des prêtres, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais un homme d'affaires qui te regarde droit dans les yeux et qui dit, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais rien raconté de ma vie à cet homme. Mais quand je suis allé le rencontrer dans la région de Toronto, où était son entreprise, moi, je l'habitais à Québec et Montréal. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 250 kilomètres entre les deux villes. Mais quand je suis allé rencontrer cet homme, j'étais en instance de divorce. J'étais marié avec 2 enfants, mais j'étais en instance de divorce. Je venais de faire un dépôt de bilan. Je n'avais fait faillite et j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne de laquelle j'essayais de me sortir depuis 2 ans sans succès. Il y avait beaucoup de monde autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne pour m'offrir une solution. Bien-aimés, si vous avez des gens autour de vous que ça ne va pas dans leur vie, dites-leur pas, ils savent. C'est leur vie, ils savent que ça ne va pas. Mais offrez-leur une solution. Personne autour de moi pour m'offrir de solution. Il a fallu que j'aille à Toronto et que j'aie cette rencontre avec cet homme d'affaires pour qu'il y ait dans mon esprit la possibilité que ma vie pouvait être différente. Quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Il a prononcé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom par lequel quiconque l'invoque puisse être sauvé. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Pourtant, je ne lui ai rien raconté des difficultés dans lesquelles j'étais. Mais cet homme qui avait le Saint-Esprit avait compris une chose, que ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, ceux qui n'avaient pas Christ, n'avaient pas la vie. Et sa passion était de partager Christ. Comme André, après avoir rencontré le Christ, tout de suite, ça a été de le dire à d'autres. Après ma conversion, j'ai retourné dans une ville où mon fils aîné était né et où j'avais vécu peut-être les années les plus sombres de ma vie. J'étais quelqu'un de très public. J'étais impliqué dans le sport. J'étais impliqué dans les médias. J'avais une émission de radio. J'écrivais des articles dans le journal local, etc. J'étais connu. Eh bien, dans les 8 années que j'ai vécu là-bas, jamais personne me voyant vivre avec la coke, avec la drogue, etc., l'alcool et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de Jésus. Il n'y a jamais personne... pour moi, il n'y avait pas de chrétien dans la ville. Et quand, après ma conversion, quelques années après, je suis retourné dans la ville où j'avais vécu, j'ai découvert qu'il y avait plein de chrétiens qui étaient là. Mais ils étaient où? Et j'ai regardé dans la Bible pour voir si, dans la Bible, on était appelé à être des agents secrets. Je n'ai pas trouvé ça nulle part. Au contraire, j'ai lu dans Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes... » Et vous serez mes... témoins. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a expérimenté. Il a été présent d'une situation, il était là et il vient témoigner. « Oh, j'y étais, j'ai participé, j'ai vu, et voici ce qui est arrivé. » C'est rien de compliqué à être un témoin. Et cet homme d'affaires a eu le courage de me mettre au défi que le jour où j'en aurai assez, de mener ma vie tout seul, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. C'était à l'été 1980. En novembre 1980, j'en avais assez de mener ma vie tout seul. J'étais découragé de qui j'étais devenu. J'étais dégoûté de moi-même. J'avais pas d'avenir, pas d'espérance. Je venais de faire faillite, comme je vous l'ai dit, et depuis 2 ans, je combattais cette dépendance à la cocaïne sans jamais être capable de la surmonter. C'est, malgré toute ma discipline, toute ma bonne volonté, malgré ma détermination à ne pas être esclave des drogues, à chaque fois, c'est la drogue qui remportait la victoire. Et un soir, dans mon petit appartement de Montréal-Nord, séparé de mon ex-femme et mes enfants à 250 kilomètres, je me suis regardé dans le miroir et j'étais dégoûté de qui j'étais devenu. Et là, j'ai été envahi de toutes sortes de pensées sombres. Mais à travers les pensées sombres, il y a une pensée qui a fait son chemin. Et c'était la suivante. « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Et ce soir-là, du fond de ma détresse, avec le peu d'honnêteté qui me restait, j'ai crié du fond de mon cœur à ce Jésus. J'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si c'est vrai ce qu'on m'a raconté à ton sujet dans mon enfance, eh bien, prends-la ma vie et fais-en ce que tu veux. Et j'ai dit, je te demande une chose. Si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et c'est la dernière fois de ma vie que j'ai consommé quelque drogue que ce soit. Vous avez devant vous un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation de drogue. Est-ce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et ce soir-là, je me suis endormi dans une paix que je n'avais jamais connue. Et je savais qu'il s'était passé quelque chose. Et il m'a fallu des mois, merci. Il m'a fallu des mois pour réaliser que j'étais libéré. J'avais pas de manque, j'ai jamais été cold turkey ou dinde froide, ou je sais pas comment on appelle le terme, mais de ceux qui sont en manque quand ils veulent, après avoir consommé des drogues pendant des années et qui veulent s'en abstenir, c'est affreux. Moi, j'ai rien connu de ça. C'est comme si j'avais jamais rien consommé de ma vie. C'est un miracle. Mais est-ce que notre Dieu est un Dieu de miracle ou pas? Est-ce qu'il est puissant? Et la parole de Dieu nous dit au psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de quelques-unes de ses détresses. » Pardon? De toutes ses détresses. Mais n'est-ce pas là une promesse extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit nous donner de l'espoir que peu importe la détresse, peu importe la situation, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délit. J'étais malheureux. J'ai invoqué le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et j'aimerais juste vous dire la délicatesse de Dieu. La délicatesse de Dieu. Cet homme ne m'a pas dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la à Dieu, je ne serai pas là aujourd'hui. Jamais j'aurais donné ma vie à Dieu. Parce que pour moi, le Dieu que j'ai connu dans mon enfance, à travers la religion traditionnelle qui prévalait au Québec, c'était un père fouettard. C'était un Dieu qui me punissait. C'était un Dieu qui m'envoyait en enfer. Et à l'adolescence, j'ai dit, ce Dieu-là, je n'en veux pas. Tant qu'à aller en enfer, je vais lui donner des bonnes raisons de m'envoyer en enfer. Et j'ai eu une vie de patachon parce que je me sentais condamné à l'enfer sans espoir. Oh, le seul espoir, il fallait que je me soumette au dogme, au sacrement, et peut-être que je serais sauvé. Mais même après ma mort, il faudrait que les autres payent des messes pour me faire passer du purgatoire au... C'était le seul espoir que j'avais. Et là, j'entends que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, que tout ce que j'ai à faire pour être sauvé, c'est d'invoquer son nom. Et que dès qu'un malheureux crie à lui, dès que j'invoque le nom de Jésus, il me sauve, il me pardonne et il me donne une nouvelle identité, il fait de moi son enfant. Et là, j'ai voulu connaître ce Dieu. Mais la délicatesse de Dieu, c'est d'avoir prononcé le nom de Jésus, pas le nom de Dieu. Et bien aimé, je vous encourage, quand vous témoignez autour de vous, parlez pas de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, ça veut plus rien dire, Dieu. Dieu cosmique, Dieu ésotérique, Dieu maître de l'univers, je suis Dieu. Chacun a son Dieu à sa sauce. Mais quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, donc nul ne vient à Dieu que par moi, dit Jésus. Donc, quand tu parles de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui m'a sauvé. Et je me tiens devant vous ce matin, et parfois, je me dis, mais quelle serait ma vie? Quelle serait ma vie? Est-ce que je serais encore vivant aujourd'hui? N'eût été de cet homme qui a osé me mettre au défi que le jour où j'en aurais assez de mener ma vie, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. J'ai parfois peine à imaginer. Quand je considère aujourd'hui la vie extraordinaire que j'ai, je voyage dans beaucoup de pays, j'ai une relation super avec mes enfants, j'ai une épouse merveilleuse avec qui je peux servir le Seigneur d'un même cœur. Malgré mes erreurs, malgré mes manquements, malgré mes échecs, Dieu a toujours été là. Et à chaque fois que j'ai tombé, il a toujours été là pour me tendre la main et me relever. Le psaume 37, verset 24, dit « Quand un homme tombe, il n'est pas terrassé. » L'Éternel lui prend la main et le relève. Et combien de fois je suis tombé, mais à chaque fois, l'Éternel a été là pour me prendre la main et m'aider à me relever. Puis dit maintenant, reprends ta course, abandonne pas, persévère, continue, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré ceci, témoigne de l'amour que j'ai manifesté pour toi. C'est ce que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui, que Dieu est amour et que Dieu les aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que Michel ne périsse pas, mais que Michel ait la vie éternelle. C'est ça, l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui a pris la forme d'un homme et qui est venu vivre notre humanité pour avoir une compassion et souffrir les mêmes souffrances, peut-être que certains d'entre nous vivons, pour qu'on puisse s'associer à lui à travers ses souffrances et dire, lui me comprend. Lui, il sait qu'est-ce que je passe au travers, parce que lui, il les a vécues. Et il est venu donner sa vie volontairement en rançon pour nous arracher dans les mains du diable et nous transporter dans le royaume de son amour et faire de nous des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Mais toutes ces choses, je ne les savais pas. Oui, j'ai crié à Jésus, il m'a délivré de la dépendance aux drogues. Mais je ne savais pas que j'étais sauvé. Mais j'avais une soif de connaître ce Jésus que j'avais invoqué et qui s'était manifesté de façon si puissante dans ma vie. Et quand tu veux connaître Dieu, tu vas arriver à la Bible. Et un an et demi après, je suis arrivé dans une réunion comme celle de ce matin. où pour la première fois, j'ai entendu prêcher la parole de Dieu avec foi, avec onction. Et quand il y a eu un appel à la fin du message, comme il y en aura un ce matin, j'ai couru en avant pour publiquement m'identifier comme pécheur repentant et demander à Dieu de me pardonner. Et j'ai accepté que le salut était uniquement un don que Dieu me faisait par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'était le 9 mai 1982. Et là, à la sortie du culte, il y avait une table de livres comme on a, et je me suis acheté une Bible. Il y a quelque chose qui me disait, quelqu'un, maintenant je sais que c'est le Saint-Esprit, qui me disait, Michel, il te faut une Bible. C'est dans la Bible que tu vas trouver toutes les réponses à toutes tes questions. Et j'ai acheté la Bible. Mais je ne l'ai pas juste achetée, je l'ai ouverte. Je ne l'ai pas juste ouverte, je l'ai lue. Et je ne l'ai pas juste lue, j'ai commencé à faire ce qu'elle me disait de faire. Vous savez, quand je donne une Bible à quelqu'un, je dis, la Bible, c'est comme un parachute. Pour que ça te sauve la vie, il faut que tu l'ouvres. C'est pas d'avoir une Bible chez vous qui va changer ta vie. On avait une Bible chez nous. J'avais jamais vu mon père l'ouvrir. C'était une grosse Bible illustrée qui avait même été signée par le pape à Rome. Le pape à Rome avait signé cette grosse Bible illustrée, apparemment. Mais je l'ai jamais vu mon père l'ouvrir. Ça nous a servi à quoi d'avoir une Bible dans la maison? Un fétiche, un porte-bonheur. C'est une parole de vie. C'est Dieu qui nous parle. Quand on prie, on parle à Dieu. Quand on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Attendez, dans mes notes, c'était marqué « La foule dit Amen ».
Amen.
Amen. Non, mais des fois, avec l'accent, vous... Puis je parle un peu plus vite que les Suisses. Oh non? Ah, OK. Et donc, vous comprenez ce que je dis jusqu'à... Moi, mais des fois, il faut traduire un peu, hein? Amen. Et donc, quand je prie, je parle à Dieu, mais quand j'ouvre la Bible, c'est Dieu qui me parle. Amen. Merci beaucoup pour votre amen spontané et non sollicité. Après quelques années de conversion, parce que je suis régulier à mon assemblée, j'ai compris qu'il fallait que je me nourrisse de la parole de Dieu pour que ma vie change. Il fallait que cette parole soit imprégnée dans mon cœur. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas manquer le but, afin de ne pas pécher contre toi. Et la foi vient, hein, Romains 10, 17, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Si je voulais que ma foi en Dieu augmente, il fallait que j'entende la parole de Dieu parce que la parole de Dieu me faisait découvrir qui était ce Dieu merveilleux, qui n'était pas un père fouettard comme j'avais pensé dans mon enfance, mais c'était un Dieu d'amour qui m'avait tellement aimé qu'il avait donné son Fils unique Jésus-Christ pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Alléluia! Et j'ai appris à connaître ce Dieu-là. Et plus j'apprenais à le connaître, plus j'avais envie de le partager autour de moi. Parce que, ben, c'était bon. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était bon. Tout ce que je découvrais, c'était bon. Ça guérissait mon âme, ça délivrait mon âme, ça me bâtissait mon identité en Jésus-Christ. C'était juste bon. Et ma seule envie, c'était de le partager autour de moi. Et au cours d'un culte, il y avait un évangéliste de passage. Et cet évangéliste a prêché sur 1 Jean 5. Et j'aimerais lire avec vous à compter du verset 11. Il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit, Corinne en parlait hier, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire et qui me donne de l'intelligence. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et quand on écoute un message de la parole, quand on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit, à un moment donné, te donne ce qu'on appelle un réma, une révélation du texte en question. Et moi, j'ai été percuté par le verset 12 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Mais de quelle vie il est question? De la vie éternelle. Et là, j'ai pensé à mon entourage, ma famille. Je suis d'une famille dont 11 enfants. J'avais un associé en affaires. J'avais plein d'amis autour de moi. Et là, j'ai commencé à comprendre que ben, ces gens-là, s'ils mouraient aujourd'hui, sans avoir eu la nouvelle naissance, sans avoir passé à travers leur repentance, et s'ils n'avaient pas reçu Christ, ils étaient perdus éternellement. La seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est au travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et là, je voyais tous ces gens que j'aimais, je disais, ils ont une vie, ils vivent, mais quelle vie? Ils n'ont pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et là, il est venu un réma dans mon cœur qui a dit, et je me suis engagé devant le Seigneur parce qu'à la fin, il a fait un appel selon Isaïe qui disait, « Qui enverrai-je? » Et Isaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Et moi, nouveau converti, quand cet évangéliste de passage a fait l'appel pour dire qui est prêt aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu et dire, « Me voici, envoie-moi. » J'ai levé ma main. Tout nouveau que j'étais, avec pas la complète compréhension de ce que ça pouvait engager dans ma vie, le fait de lever ma main pour dire, « Me voici, envoie-moi. » Mais Dieu a vu ma main. Dieu a vu ma main. Et 8 ans plus tard, Dieu m'a rappelé qu'un jour, j'avais levé ma main pour dire que j'étais prêt à y aller. Il dit, « Maintenant, quitte tout et suis-moi. » Et Dieu ne m'a pas appelé quand j'étais dans la défaite, quand j'étais battu sur tous les... Il a attendu que je prospère. Il a attendu à travers les principes de sa parole que j'ai mis en application, Dieu m'a fait prospérer dans tous les domaines de ma vie. Et après, il dit, « Est-ce que tu m'aimes plus que ça? » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Ben, dis, « Quitte ça, puis suis-moi. » Et ça fait 26 ans que j'ai quitté carrière et profession pour me consacrer à l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu veux dire, mon frère? Amen. Sois béni. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, tous les matins, j'ai commencé à prier et dire, « Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui. Fais que je puisse parler de toi. » Je priais mon agenda. J'étais homme d'affaires. Et le matin, je me levais tôt parce que je voulais un temps avec le Seigneur. J'avais besoin d'entendre ses instructions. J'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il voulait faire de moi, comment il voulait m'utiliser. Et je priais mon agenda. « Seigneur, aujourd'hui, je rencontre telle personne. Laisse-moi mettre tes intérêts en premier. Ta parole dit que si je cherche d'abord ton royaume et ta justice, tout le reste me sera donné. » Donc, moi, ce n'est pas d'arriver et de dire, « Ah, si je peux signer un gros contrat avec lui, est-ce que je peux lui parler de toi? Est-ce que je peux lui dire combien tu l'aimes? Est-ce que je peux lui dire que sa vie peut changer s'il se tourne vers toi, Jésus? » C'est ce qui me motivait. Mais comme professionnel, je faisais d'abord ce que j'avais à faire en tant qu'homme d'affaires avec, mais je cherchais toujours l'opportunité, toujours la petite phrase, toujours le petit indice qui me donnait l'opportunité de pouvoir parler de ce Jésus auquel j'ai goûté, que je continue à goûter et que je continue à dire à plus de gens possible combien il est bon, combien il est bon. Et j'utilise tous les moyens possibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un beau polo, hein? Qui est à l'effigie de plus que vainqueur. J'ai un bracelet où c'est marqué plus que vainqueur par Jésus-Christ. J'ai des pins, des petites choses comme ça, dans le but d'être capable de toucher des gens qui sont interpellés. C'est quoi plus que vainqueur? Oh, je suis content que tu poses la question. Alléluia! Alléluia! Je suis tellement content que tu me demandes. Et là, je peux partager ce qui était ma vie. Bien-aimés, on est appelés à être des témoins. Je ne me souviens pas d'une occasion où j'ai prêché de Genèse à Apocalypse à quelqu'un pour l'amener à Christ. J'ai donné mon témoignage. Voici qui j'étais, comment j'ai rencontré le Christ. Pas une religion, la personne de Jésus-Christ. Quand j'ai crié à lui, comment il a entendu mon cri, comment il m'a délivré de 18 ans de consommation de drogue et comment il m'utilise aujourd'hui pour dire au monde qu'il les aime et que tout ce qu'il attend, c'est qu'il l'invoque. Romains 1,16 dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque. » C'est qui, quiconque? Vous connaissez quiconque? J'ai été quiconque? Qui a été quiconque ici? Alléluia! Qui voudrait que tous ceux qu'ils aiment soient des quiconques? Alléluia! La Bible dit « quiconque, un autre quiconque ». Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... » Alors, qu'est-ce qu'il est dit qu'on doit faire pour être sauvé? Invoquer, c'est rien, c'est pas compliqué. Pour être sauvé, ce que j'ai à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Mais verset 14 dit, « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. » Moi, au lieu de faire de la publicité pour Nike ou pour Adidas ou pour Lacoste ou les femmes pour Dior ou Chanel, je fais de la publicité pour le royaume de Dieu. En espérant que la personne en face de moi va me poser la question pour savoir c'est quoi. L'autre jour, j'étais devant un vendeur dans un commerce. Il dit, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, oui, mais pas par moi-même, par Jésus-Christ qui m'a sauvé. J'y montre le reste du bracelet. Ah bon? Et lui, il n'a pas voulu aller plus loin, mais au moins le nom de Jésus-Christ a été semé. Le nom de Jésus a été semé. Cet homme d'affaires, je ne l'ai pas revu pendant des mois. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé au moment voulu que si je voulais que ma vie change, j'avais une chose à faire, invoquer le nom de Jésus, lui donner ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour cet homme. Je bénis Dieu pour cet homme. Il a changé ma vie. Pas lui, mais le fait qu'il a mentionné le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas idée, bien-aimé, de ce que Dieu peut faire avec la vie de quelqu'un. Et on doit être pas des agents secrets. On doit être des témoins. Et on doit chaque jour désirer le salut des âmes, en commençant par notre famille. Oh, moi, j'ai témoigné à toute ma famille, je peux vous garantir. Quand je suis sorti de ce culte le 9 mai 1982, j'avais un zèle qui ne m'a pas quitté et que je ne veux jamais qu'il me quitte. Et j'ai commencé à leur dire que j'avais eu, comme Pierre, j'ai la révélation que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu, qu'il était mort pour me pardonner tous mes péchés, que j'avais la vie éternelle. J'étais pardonné, j'étais sauvé. Ils m'ont dit, oh Michel, toi, tu t'enthousiasmes rapidement pour des choses. On va te regarder vivre pour voir si ta nouvelle affaire, ça marche ou pas. 34 ans plus tard, je suis toujours là à proclamer le salut en Jésus-Christ, combien Dieu est bon, parce que j'ai goûté combien qu'il était bon. On le fait pour un resto, on le fait pour un film, et celui qui a donné sa vie en rançon pour nous, celui qui est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et nous réconcilier à Dieu le Père, on aurait honte d'en parler, dites après moi, pas nous. Pas nous. Nous, on n'a pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque. Quiconque. Retenez le mot quiconque. Quiconque. Ça veut dire n'importe qui que tu rencontres. N'importe quelle personne à qui tu vas parler de Jésus-Christ. Vous n'avez pas d'idée de ce que Dieu peut en faire. Don Harding, cet homme de Toronto, ne savait pas qu'un jour je deviendrais un évangéliste qui parcourrait les nations avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais il a semé le nom qui est au-dessus de tous les noms dans ma vie. Après, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, a fait le reste. On fait le reste. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a fait le reste par la suite. Mais il a fallu qu'il y ait un départ. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Si nous, on n'en parle pas. Regardez l'islam. Ils gênent eux pour propager leur propagande. Regardez les témoins de Jéhovah. Ils sont témoins de rien en passant. Hein? Parce que c'est dans la Bible, oubliez ça, Jéhovah. Mais eux, ils vont frapper aux portes. Les Mormons vont frapper aux portes avec leur doctrine de mort, parce que ça n'amène pas à la vie éternelle. La seule qui peut amener à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi qui vous le dis, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Sinon, si, comme ça a été chanté dans les années 80, « Nous irons tous au paradis, toi et moi, mensonge du diable. » On n'ira pas tous au paradis, mais on va tous vivre éternellement. Parce que Dieu, l'humain qui a été créé à son image, à sa ressemblance. Dieu est éternel, Dieu est esprit. Et donc, chaque être humain créé sur terre va vivre éternellement après sa mort. Mais dans la présence ou dans l'absence de Dieu? Au ciel ou en enfer? On n'en parle plus d'enfer aujourd'hui. On ne parle plus de la croix. On veut tenir des discours qui sont gentils pour les gens. Hein? Édulcoré. Oh, man, vous avez de l'éducation, vous, madame. C'est des beaux mots. Édulcoré. Il faut revenir à la simplicité de l'Évangile. La croix. Il faut qu'on passe par la croix. Et le seul nom qui peut te sauver, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas la religion, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Et on a une mission, bien-aimé. On est appelé à être des témoins. Des témoins. Est-ce que quelqu'un ici a un avant Jésus-Christ, une rencontre avec le Christ et des changements dans sa vie depuis cette rencontre avec le Christ? Levez la main. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, de le partager. Juste de le partager. Tu veux venir, Corinne? Oui, s'il te plaît.
Alors, pourquoi témoigner?
Ah oui, il faut un micro. Peu importe, pour l'enregistrement. Ouais.
Pardon. Alors, pourquoi témoigner? Je vais vous dire d'après Apocalypse, car il nous reste peu de temps. Dans ce peu de temps, il faut aller plus vite que l'adversaire. Il faut non pas être dans la réaction par rapport à ses attaques, mais il faut être dans l'anticipation par rapport à ce qui va arriver. Ça rejoint un peu le message de plus que vainqueur. Je fais le lien parce que dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Donc ça, c'est à cause de Jésus-Christ dont on vient de parler maintenant. Et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque fois que vous témoignez d'une victoire de Christ dans votre vie, vous maintenez l'ennemi inopérant, vous le paralysez? Si vous commencez à comprendre que le fait de témoigner enlève des armes à Satan, qui lui essaye par tous les moyens de vous en empêcher de parler, mais maintenant, on nous a tellement dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas témoigner, il ne faut pas parler de toi. Ok, je ne me mets pas en avant quand je témoigne. Quand je témoigne, je raconte quelque chose que l'éternel Dieu a fait pour moi. Pourquoi le sang de Jésus a eu la victoire dans tel ou tel domaine de ma vie? Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Dans Jean 17, verset 20, Jésus dit, je réponds aux demandes de ceux qui croient en moi par leur parole. Aha. Ceux qui croient en moi par leur parole. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez seulement vivre intérieurement, le fait d'avoir reçu Jésus dans votre cœur, c'est très beau. Mais le Seigneur, il veut vous exaucer dans des domaines de votre vie par rapport à l'audace aussi que vous avez de montrer que vous avez la foi dans ce qu'il a fait, et que vous avez l'audace de croire en ses paroles en le témoignant. Allez vérifier. Jésus dit, réponds à ceux qui croient, il dit, je crois, ceux qui croient en moi, en Jésus, par leurs paroles. Alors maintenant, je voudrais faire un petit exercice. J'ai demandé l'autorisation à mon mari tout à l'heure. Je voudrais appeler ici devant quelqu'un qui était à la réunion vendredi soir, où c'était mon papa, c'est le plus fort. Une personne va venir témoigner, non pas pour se vanter devant l'Assemblée, mais pour maintenir dans sa vie Satan inopérant par rapport à ce qu'il aura ou elle aura accepté ou compris ou intégré pendant la réunion de jeûne. Parce que par la parole de son témoignage, elle va vaincre. Elle sera ou il sera un vainqueur. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Après, j'appellerai quelqu'un qui était présent hier soir, pour l'attitude dans l'épreuve. Pareil, par rapport au positionnement que vous avez eu, venez le dire publiquement, parce que c'est par la parole de votre témoignage que vous allez permettre à l'ennemi d'être inopérant dans votre vie et à Jésus de répondre à vos demandes. Et je terminerai par un témoin qui a été interpellé par la présentation de notre voyage en Israël, qui nous demande de venir bénir Israël. Donc, ça aura une personne. Donc, que trois personnes viennent maintenant, c'est un exercice, mais c'est bien de rentrer dans la pratique, parce que la parole de Dieu, c'est bien de l'entendre, mais c'est mieux de la pratiquer. Alors, osez. Qui, parmi un jeune, pas longtemps, juste un mot ou deux mots de ce que ça a marqué, c'est tout. Bien, volontiers. Waouh. Bravo. Je ne vous demande pas un long témoignage, hein, comme Michel, il n'a pas tenu une demi-heure, hein. Vous n'allez pas parler de... Mais quelque chose qui vous a frappé, qui va maintenir...
Oui, viens.
Allez, prends le micro, bravo, on l'applaudit, c'est
courageux. Monte.
Merci. Alors, Oui, j'étais ici vendredi et puis le thème c'était donc mon papa est le plus fort. Et pour moi c'était juste formidable parce que ça fait 2-3 mois que ça allait vraiment pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir régler ça avec les lavings où justement c'était par rapport à mon père, par rapport à ma vie. Et vendredi en fait, elle a parlé, je ne me souviens plus de quoi.
Corinne.
Corinne, elle a parlé que lorsque notre papa ne nous a pas approuvé, en fait, forcément, on va chercher chez un homme les qualités qu'on attendait de notre papa. En fait, c'est exactement ce que je fais. Et du coup, bah, j'ai eu le cœur brisé, comme il fallait s'attendre. Et puis, c'était hyper dur, mais vraiment, ça m'a hyper motivée de me dire que, et puis quand on a prié, enfin, de me dire que Dieu, il est vraiment pour moi, il m'a approuvé. Et puis,
Michel.
Je ne suis pas toujours performante avec les traînants. Mais il y a Michel qui a prié pour moi et qui a vraiment attesté, qui m'a validé spirituellement. Et du coup, je me sens vraiment super bien. Quoi. Et puis, je sais que Dieu est pour moi. Donc, voilà.
Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Quelqu'un qui était hier soir ou. Oui, l'attitude du plus que vainqueur, qui veut venir donner un court témoignage. Allez, viens, Marco. Viens, Marco. Viens, mon ami. Viens.
Bonjour à tous. Effectivement, hier soir, j'étais présent. Et Michel a parlé de l'épreuve. Et c'est vrai que l'épreuve, ces quelques dernières années, j'en ai pas mal. Et c'est vrai que, comme il disait... Au départ, tu murmurais aussi. Et moi, c'était mon cas aussi. Quoi. Au bout d'un certain moment d'épreuve, on murmure quand même un peu. Hein. Et ben, suite à ce que Michel a dit, j'ai pris la décision de vraiment d'être plus que vainqueur dans l'épreuve et de remercier même les épreuves qui nous sont à tous... donné dans notre parcours de vie. Donc, je peux dire maintenant merci pour ces épreuves parce que ça nous transforme aussi, ça nous taille, ça taille notre caractère. Et l'épreuve, on en aura toujours. Voilà.
Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci, Marco. Il y avait un article concernant un artiste, un sculpteur, qui est devant un bloc de marbre, et on lui demandait, mais comment tu fais pour sculpter quelque chose à travers le marbre? Il dit, j'enlève dans le marbre tout ce qui ne ressemble pas au cheval que je veux sculpter. Dieu a un objectif, il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Donc, comme bon sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève dans notre vie tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Pour Israël, hier matin, quelqu'un par rapport à Israël, hier matin? C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais quand même. Est-ce qu'on aura le temps de présenter le DVD? OK. Alors, si quelqu'un plus tard veut, après le petit film. Mais avant de terminer avec un appel, j'aimerais... partager un texte tiré de 2 Rois 7, compté du verset 9. Alors, je vous mets en situation, c'est la famine en Samarie. Ils sont rendus à manger leurs enfants, tellement que c'est la catastrophe. Puis, il y a des lépreux qui sont à l'intérieur du campement, de la ville, qui est assiégée. Et ils se disent, écoute, perdu pour perdu, on va aller se jeter dans le camp des Assyriens. S'ils nous tuent, de toute façon, on est voué à mourir. Puis peut-être qu'ils auront pitié de nous, puis qu'ils nous donneront à manger. Et donc, ils sortent de la ville, et ils arrivent dans le camp des Assyriens. Et là, à leur grand étonnement, Dieu avait envoyé une embuscade dans le camp des Assyriens, et tout le monde était parti avec des cadavres qui étaient restés, et le butin. Et là, ils sont emparés du butin, ont commencé à se nourrir. Puis, à un moment donné, ils ont dit, « Mais ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Allons, nous devons porter cette bonne nouvelle au palais royal. Ils n'ont pas gardé pour eux la bonne nouvelle. Ils sont allés la partager, ce qu'ils venaient de découvrir. Et lorsqu'on garde pour nous les bienfaits de Dieu, on a goûté combien l'Éternel est bon. J'aimerais vous lancer avec ce défi. Nous, c'est une comparaison, c'est comme si nous avions l'antidote contre le cancer. Nous sommes entourés de cancéreux, mais on ne leur donne pas l'antidote pour le cancer. On serait accusé de non-assistance à personne en danger. Nous avons l'antidote contre le péché. Nous sommes entourés de pécheurs. Et si on ne leur donne pas la solution, l'antidote de leur péché, qui est Jésus-Christ de Nazareth, on pourrait être accusé de non-assistance pour personne en danger spirituel. C'est la vie éternelle qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira à Timothée, « Je t'encourage à témoigner en toutes circonstances, favorables ou non. » Et pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Osons, osons, osons témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Osons dire au monde la bonne nouvelle de Jésus, que Dieu est amour, que Dieu les aime. Et la preuve, c'est Jésus-Christ. Et que le jour où ils en auront assez de mener la vie qu'ils mènent, ils auront à invoquer le nom de Jésus et Jésus fera le reste. C'est Jésus qui va faire le reste. Par le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. On le fait pour le resto, on le fait pour un film. Et celui qui nous a donné la vie éternelle par sa vie, par son sacrifice à la croix, on aurait honte d'en parler, on aurait peur d'en parler. Vous savez, si c'était vrai que tout le monde allait au ciel, pourquoi les martyrs? Pourquoi des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans la foi n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Pourquoi des hommes et des femmes, pour que la Bible parvienne jusqu'à nous, pour le salut en Jésus-Christ parvienne jusqu'à nous, l'ont fait au risque et péril de leur vie, et certains sont morts? On vient de célébrer les 500 ans de Martin Luther. Peu importe comment il a mal fini par rapport à Israël, ce n'est pas le point. Mais lui a osé, au risque de sa vie, on a voulu le brûler, le tuer, l'assassiner, son moine collègue a été mort sur un bûcher. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait le mensonge du catholicisme à l'époque. Et il a commencé à dire, il faut que la Bible soit dans les mains du peuple, comme ça, comme les gens de Béret, ils pourront vérifier si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. On a une responsabilité. Et comme 34 ans passés, alors que cet évangéliste de passage a fait un appel pour Dieu, de la part de Dieu qui disait, « Mais cherche quelqu'un, qui enverrai-je? » Isaïe a levé la main pour dire, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui entend l'appel de Dieu, qui encore aujourd'hui dit, « Mais qui enverrai-je? Qui osera aller dire au monde combien je les aime? » Vous n'êtes pas tous appelés à être des évangélistes et à quitter travail, profession, à vous consacrer. C'est mon appel. J'ai répondu uniquement à l'appel de Dieu sur ma vie. Mais nous sommes tous appelés à témoigner. Qui ce matin? Si devant Dieu, pas devant moi, pas devant l'Assemblée, si devant Dieu ce matin, tu es prêt à dire à Dieu, comme Ésaïe, me voici, envoie-moi, je t'invite à te lever à ta place. Là où tu es ce matin, juste te lever devant Dieu pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu vois ton peuple qui répond à ton appel ce matin. Seigneur, tu nous convaincs que partout autour de nous, il y a des gens qui périssent éternellement. Et nous avons l'antidote contre le péché qui les sépare de toi. Et cet antidote, c'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme j'ai répondu à cet appel 34 ans passés, tu as transformé ma vie et tu m'as utilisé des années plus tard pour dire maintenant, voici, je t'envoie. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui se tiennent devant toi aujourd'hui et qui répondent à ton appel de qui enverrai-je et qui sont là pour te dire, me voici, envoie-moi. Seigneur, utilise-les. Merci pour ton Saint-Esprit. Ta parole nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Seigneur, donne-nous d'être des témoins. Nous avons goûté combien tu es bon. Nous avons un avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Nous avons une rencontre avec Jésus-Christ qui a transformé notre vie, qui nous a donné le pardon des péchés, l'assurance de notre salut éternel. Et aujourd'hui, tu veux nous utiliser comme témoins, là où nous sommes, là où nous sommes. Merci pour ton Saint-Esprit maintenant, qui va utiliser chacune des personnes qui se tient devant toi pour répondre à ton appel et qui disent « Me voici, envoie-moi ». Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, est-ce que quelqu'un ce matin, tu es là dans ce lieu et tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Tu crois en Dieu, peut-être que tu es régulier à l'Assemblée, ou peut-être que tu es là pour la première fois. Mais si tu mourais aujourd'hui, tu n'as pas l'assurance à 100% que tu serais dans la présence de Dieu pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un est dans cet état-là ce matin? J'aimerais que tu lèves la main. Vous pouvez vous asseoir, pardon, comme ça. Est-ce que quelqu'un... Vous n'avez pas l'assurance, madame? Vous voulez vous lever à votre place? Quelqu'un d'autre qui... Écoute, c'est ton éternité qui est en jeu. Si tu es là ce matin et si tu mourrais aujourd'hui, tu n'es pas certain à 100% que tu serais dans la présence de Dieu pour l'éternité. Lève-toi. Dieu veut te donner cette assurance ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre? Dieu veut te donner cette assurance ce matin. Cette assurance de la vie éternelle. Parce que c'est par grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi et ça ne vient pas de nous, ni de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est juste un don gratuit que Dieu veut nous accorder. Mais la seule condition pour le recevoir, c'est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voulez-vous vous approcher? J'aimerais prier avec vous ce matin. Les personnes qui êtes debout, ici, oui, venez devant, venez devant. Allez, venez face à moi, placez-vous là. On va prier ensemble une prière. Selon la parole de Dieu, dans Romains 10, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Le brigand à la croix du calvaire, Jésus est mort entre deux brigands. Un qui l'injuriait, qui se moquait de lui, et l'autre qui a fait taire son compagnon et qui a dit, ce que nous on reçoit, on le mérite parce qu'on est des brigands. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il s'est tourné vers Jésus, puis il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton paradis. Et quelle a été la réponse de Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc, ce brigand n'a pas eu le temps de descendre de la croix, d'aller mettre sa vie en règle, de faire des bonnes œuvres. Il a cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et s'est repenti de son état à lui et a demandé grâce à Jésus. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez péché contre Dieu? Est-ce que vous êtes repentant d'avoir péché contre Dieu? Est-ce que vous voulez lui demander pardon d'avoir péché contre lui? Faites-le un instant, juste dans vos mots. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, à travers ma repentance, je viens à toi tel que je suis et confesser ton nom. Confesser le nom de Jésus. Je vais vous conduire dans une prière. Et vous, dans l'Assemblée qui avez déjà fait cela, en solidarité avec nos frères et sœurs, seriez-vous d'accord à vous lever à votre place et à répéter avec eux pour dire, « Hey, on est de tout cœur avec vous. Nous aussi, on veut que vous ayez cette assurance de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. » Et on va simplement aller dans cette confession de foi que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Donc, je vous encourage à répéter à haute voix avec moi, « Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi aujourd'hui afin de te demander sincèrement pardon pour tous mes péchés. Pardon d'avoir vécu ma vie à ma façon, Mais aujourd'hui, de mon plein gré, par un acte de ma volonté, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus. Viens y faire ta demeure. Jésus, j'ai besoin de toi. Prends ma vie telle qu'elle est. Fais-en ce que bon te semble. Et je confesse publiquement aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour me pardonner mes péchés, me réconcilier à Dieu le Père, et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour moi. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et selon ta parole, je suis donc sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir aimé au point de donner ta vie pour moi. Diable, arrière de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai changé de camp. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Dieu qui lui est venu pour me donner la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance et la vie éternelle. Et j'entre dans cette vie abondante maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Amen. J'aimerais juste terminer avec ce verset, pour vous principalement. C'est la parole de Dieu qui parle. Il dit, « Bien-aimés, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, Dieu veut que tu saches aujourd'hui, Dieu veut que tu saches aujourd'hui que tu as la vie éternelle. Pas tu auras, que tu as la vie éternelle. Parce que vous vous êtes repentis, parce que vous avez mis votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés, pour être réconcilié à Dieu, vous l'êtes. Vous l'êtes. Maintenant, travaillez à votre sanctification, qui n'est pas la même chose que le salut. Et la sainteté de Dieu veut se manifester en vous au travers de la parole et par le Saint-Esprit. Amen. Croyez ce que dit la Bible. Vous avez maintenant la vie éternelle. Et j'aimerais simplement faire l'onction d'huile sur chacun de vous et demander au Saint-Esprit de venir sur vous parce que c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité qui vous rendra libre. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez ce Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Et il viendra sur vous. Et non seulement il vous consolera de toutes vos afflictions, consolera de toute votre vie passée, mais vous donnera surtout la puissance d'être son témoin et de pouvoir partager autour de vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Recevez maintenant par l'onction qui est appliquée sur votre front, qui représente l'Esprit du Dieu vivant, la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Reçois, ma sœur, par le Saint-Esprit, la conviction du pardon de tes péchés et que tu as maintenant la vie éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Sharabashando. Alléluia, reçois ma sœur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit de Dieu qui vient sur vous maintenant et qui manifeste et qui te donne la conviction, ma sœur. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et toi aussi, je prie pour toi la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Et tu seras appelée prophétesse de l'Éternel. Dieu a formé sur ta vie des projets de paix, non de malheur. Seigneur, tu gardes cet enfant, je le place sous ta protection. Et dès son jeune âge, Seigneur, elle t'est consacrée, elle t'est présentée. Et tu as des projets sur elle et tu vas l'utiliser puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour... Merci Jésus.
Alléluia.